Chers amis des cellules, bonjour. Il y a 15 jours, nous nous étions penchés sur le fait que l'Église est faite pour évangéliser. Je voudrais continuer aujourd'hui cette réflexion en me penchant plus particulièrement sur le milieu que nous avons à évangéliser. Quels sont pour nous les destinataires de la bonne nouvelle? Peut-être est-il utile, en guise d'introduction, de rappeler ce que l'évangélisation n'est pas. L'évangélisation n'est pas le fait d'imposer l'évangile de maison en maison. L'objectif n'est pas de contraindre les gens à appliquer l'évangile. L'objectif n'est pas de contraindre ou de manipuler les gens à accueillir l'évangile de Jésus, mais à les faire y adhérer. Il y a une vraie différence entre contraindre, ou du coup leur volonté ou leur intelligence ne s'impliquerait pas vraiment dans ce processus, et puis les faire adhérer, c'est-à-dire qu'il y a une lumière pour leur intelligence et il y a une implication de leur volonté qui adhère à ce qu'ils ont entendu. L'évangélisation, ce n'est pas non plus remplir les bancs de son église. Aussi fier et réjoui que l'on puisse être de voir une église où toutes les chaises seraient pleines, le but n'est pas que les bancs soient occupés, mais que les gens qui entendent l'Évangile le mettent en pratique dans leur existence. Alors ça les conduira aussi à célébrer dans l'Église, mais le but n'est pas de mettre des gens sur les bancs. Entre guillemets, on pourrait payer les gens pour qu'ils viennent sur les bancs, si ça c'était l'objectif. L'objectif est que l'Évangile soit intégré. C'est une chose qui peut prendre du temps, ça peut même être des années pour qu'une personne passe du contact au fait de venir à l'église et de venir régulièrement à l'église. L'évangile n'est pas non plus une proclamation qui suscite chez nos auditeurs suspicion ou indifférence. L'évangile est une bonne nouvelle, et donc d'une certaine manière, ça doit se voir. Ça doit se voir que c'est important pour nous et que c'est même source de joie pour nous. Si nous partageons quelque chose aux gens en leur disant « ben voilà, ce qui me cause énormément de tristesse et je voudrais que toi aussi tu prennes cette tristesse sur toi », je ne suis pas sûr qu'ils soient très intéressés, au contraire, ils vont plutôt nous fuir. L'Évangile, c'est cette bonne nouvelle de Jésus qui nous dit « je vous ai dit tout cela pour que ma joie soit en vous, et ma joie est complète ». Jésus parle de sa joie qu'il veut partager en Jean 15 au verset 11 ou en Jean 17 au verset 13. La diffusion de l'Évangile, la diffusion de la bonne nouvelle se fait avec zèle et enthousiasme. Alors, ne nous trompons pas non plus, un zèle et enthousiasme, ça ne veut pas dire avec une exubérance débordante de tous les moments. Chacun a aussi le droit d'avoir son tempérament. Mais zèle et enthousiasme signifie que on en a un souci régulier, un souci, on pourrait même dire, programmé. Et l'enthousiasme, c'est qu'il y a un souffle et un élan de notre action, un élan réel. Cette introduction étant faite, ce rappel de ce que n'est pas l'évangélisation étant fait, regardons qui sont les destinataires, qui sont les premiers destinataires de l'évangélisation pour nous. Et nous allons nous appuyer pour cela sur ce que nous trouvons dans l'Écriture. Je prendrai comme exemple la rencontre de Saint-Pierre avec Corneille dans les Actes des Apôtres. C'est un long passage dans les Actes, à partir du chapitre 10 au verset 1, jusqu'au chapitre 11 au verset 18. Dans cette rencontre, on voit que ce n'est pas simplement Corneille qui est touché, qui a fait venir Saint-Pierre et qui est touché par sa prédication, mais c'est Corneille et toute sa maison. La maison est un terme qui revient 11 fois dans ce récit. Comprenons bien que la maison ne désigne pas les murs ici, mais tous ceux qui habitent dans les murs, tous ceux qui sont des familiers de ces murs, c'est-à-dire la famille de Corneille directement, mais aussi ses serviteurs, les gens qui vont et viennent de façon régulière, tout cela fait partie de la maison, tout cela fait partie de l'entourage. Et le terme grec qui désigne maison dans ce récit évangélique, c'est le terme d'oïkos. Je vous cite quelques passages qui concernent du coup l'oïkos de Corneille. Par exemple, au chapitre 10, verset 2, je cite, « Dans sa piété et sa crainte envers Dieu, que toute sa maison, oïkos, partageait, Corneille comblait de largesse le peuple juif et invoquait Dieu en tout temps. » Ou bien, au chapitre 11, les versets 13-14, un ange du Seigneur dit à Corneille, « Envoie quelqu'un à Joppé pour faire venir Simon, qu'on surnomme Pierre. Il exposera devant toi les événements qui apporteront le salut à toi et à toute ta maison, oïkos. » Ou bien, au chapitre 10, au verset 24, « Quand Pierre arriva, Corneille, de son côté qui les attendait, avait convoqué sa parenté et ses amis intimes. » Cela nous donne à comprendre que cette rencontre de Saint-Pierre et de Corneille ne concerne pas seulement Corneille, mais Corneille et tout son entourage, Corneille et toute sa maison, Corneille et tout son milieu. En somme, Corneille et tout son oïkos. Nous avons cité l'exemple de la rencontre de Saint-Pierre et de Corneille, mais on pourrait citer d'autres passages. Je vous en donne quelques-uns rapidement. C'est le possédé de Gérasa qui est envoyé par Jésus, une fois libéré, annoncer ce que le Seigneur a fait pour lui à toute sa maison. En Luc 28, les versets 26 à 39. C'est l'appel de Lévi, de Matthieu le publicain, qui, appelé par Jésus, va organiser un repas pour ses amis et à qui il va présenter Jésus. Même chose pour Zachée, qui, recevant Jésus chez lui, reçoit aussi plein de monde, son entourage. Ce sont les premiers disciples qui vont trouver leurs amis. On peut penser à Philippe qui va conduire Nathanaël à Jésus. Donc on voit que la rencontre avec Jésus, la connaissance de Jésus, a des répercussions pas simplement sur l'individu, mais sur l'individu et son milieu, l'individu et ses relations, l'individu et son oïkos. Et donc, si nous devions donner une définition de l'oïkos pour nous, l'oïkos, c'est l'ensemble des personnes avec lesquelles on entretient des relations habituelles. Voilà, les relations habituelles, qui sont donc pour nous déjà existantes, hein, c'est la famille, ce sont les voisins, ce sont les amis et ceux qui ont les mêmes intérêts et passe-temps que nous, ce sont les collègues de travail, les amis d'études. Donc nous voyons que notre entourage dans l'oïkos est à comprendre sous deux lignes. C'est le ligne de la proximité géographique, mais aussi ce sont les lignes de la proximité des activités et des occupations. Les collègues de travail, je les retrouve loin de mon domicile peut-être, mais voilà que nous partageons régulièrement une activité. Voilà. L'oïkos, comprendre l'ensemble des personnes avec lesquelles on entretient des relations habituelles. Que ce soit centré sur notre maison, que ce soit centré sur notre lieu de travail, que ce soit centré sur un lieu de sport ou de loisir. En fait, donc, l'évangélisation profite de ces relations déjà existantes, ces relations de l'oïkos qui existent déjà, pour que l'annonce de la bonne nouvelle soit faite. L'annonce de la bonne nouvelle se déploie d'abord au sein de ces relations habituelles que nous entretenons. À la base de l'évangélisation de l'oïkos, il y a une intuition très forte, l'intuition que le fait que je vive à tel endroit et que j'ai tel réseau de relations, telle relation habituelle, n'est pas simplement le fruit du hasard, mais le fruit de la providence. C'est que Dieu m'a placé en ce lieu, peut-être difficile d'ailleurs, non pas pour que je le subisse ou pour que j'en change, mais pour que je le transforme. Dieu m'a placé dans ce lieu pour que je sois une occasion de découverte du Christ pour mes frères, mais aussi pour que, en allant vers eux, je découvre le Christ qui veut se donner, qui veut se révéler à moi. Il y a là un acte de foi très important donc, hein. C'est celui de se dire, celui de croire que mon entourage n'est pas simplement le fruit du hasard, mais que mon entourage est voulu par Dieu comme une occasion d'annonce de l'Évangile et comme une occasion de découverte du Christ dans le visage des autres que je vais rencontrer. L'oïkos apparaît alors comme la façon la plus simple et la plus naturelle que Dieu nous offre pour annoncer l'Évangile dans la vie de tous les jours, puisque c'est le milieu dans lequel nous baignons, et dans ce milieu nous tenons une place irremplaçable. C'est-à-dire, si nous n'annonçons pas l'Évangile à notre milieu, eh bien personne d'autre ne pourra le faire à ma place. C'est la petite portion du monde qui m'est tout particulièrement confiée. Le Seigneur veut que les frères de notre oïkos le reconnaissent comme unique sauveur, et Jésus nous demande de collaborer avec lui. La petite chose que tu as découverte de Jésus, tu peux la partager. Je voudrais à nouveau insister sur le fait que c'est ainsi que les premières communautés chrétiennes se sont développées. Nous en avons le signe dans les salutations de saint Paul à la fin de l'Épître aux Romains au chapitre 16, où Paul dit par exemple ceci. Saluez Prisca et Aquilas, mes coopérateurs dans le Christ Jésus. Saluez aussi l'Église qui se réunit chez eux. Donc c'est une petite communauté, un premier oïkos qui se réunit chez eux. Ou encore un peu plus loin, saluez Appel qui a fait ses preuves dans le Christ. Saluez les membres de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez les membres de la maison de Narcisse dans le Seigneur. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, Olympas, et tous les saints qui sont avec eux. Ces salutations sont le témoignage que la vie chrétienne ne se réduisait pas à une seule interaction entre l'individu et son Seigneur, que la vie chrétienne ce n'était pas non plus l'individu plongé dans la grande communauté qui se rassemblait une fois par semaine, mais que la vie chrétienne c'était d'abord cette interaction, cette vie fraternelle de l'oïkos, de la maisonnée, de ce petit groupe de mes relations habituelles. Retenons peut-être trois choses en particulier. La première, la définition de l'oïkos, de la maison que nous avons donnée, c'est-à-dire l'ensemble des relations habituelles que nous avons, que ce soit notre famille, que ce soit nos voisins, nos relations de travail ou les gens avec qui nous partageons des intérêts communs. La deuxième chose, c'est que l'Écriture nous montre que nous avons une responsabilité particulière pour cet oïkos, pour cet entourage proche. Nous voyons comment Jésus envoie annoncer l'Évangile à ceux qui nous entourent, comment les personnes touchées par Jésus parlent à ceux qui les entourent. Nous voyons comment Corneille, dans les Actes des Apôtres, permet à l'ensemble de sa maison d'entendre et d'adhérer à la bonne nouvelle. Donc il y a bien cette responsabilité pour notre entourage proche. Et puis, comprendre que notre présence dans tel milieu, à tel moment de l'histoire des hommes, n'est pas simplement le fruit du hasard, le fruit des circonstances, mais est aussi une volonté de la Providence. Le Seigneur nous a placés à tel endroit, dans tel milieu, pour que nous transformions ce milieu et pour que nous le rencontrions, lui, dans le visage de ceux vers qui nous irons. Je me permets, pour conclure, de tirer une sagesse de cette période d'épidémie que nous vivons. Nous nous rendons compte que le virus qui n'a pas de pied, qui n'a pas de main, qui est incapable de se déplacer seul, dépend pour sa propagation de la rencontre des humains. Eh bien, l'Évangile a un côté aussi viral. Il se transmet par la rencontre des humains, il se transmet par le contact que les humains ont entre eux. Mais au lieu de détruire les cellules et de menacer la vie humaine, l'Évangile apporte la vie éternelle. Chers amis des cellules, nous qui avons un cœur, une intelligence et reçu le don de l'Esprit-Saint, ne croyons pas que nous serions moins efficaces que des virus. Osons évangéliser notre oïkos. je vous souhaite de bons échanges.